Bonjour, c'est Raphaël Marchal qui vous parle. Je suis journaliste culinaire et je termine toujours mon assiette. Bienvenue sur À côté de la plaque, le podcast qui parle de tout, sauf de bouffe, quoique. On connaît de ces acteurs du bon leurs produits, leurs terroirs et leurs plats signatures, mais est-ce qu'on les connaît eux ? Leurs envies, leurs phobies, leurs combats, leurs drôleries, leurs contradictions et leurs émotions, rien n'est moins sûr. Alors asseyez-vous et écoutez, deux fois par mois, sur Business of Bouffe. Bonjour Yves et merci d'avoir accepté mon invitation à ce podcast un petit peu mystère parce que tu sais pas trop à quelle sauce tu vas être mangé aujourd'hui.
Eh bien merci déjà de me recevoir et comme j'aime manger et j'aime être mangé, ça me pose pas de problème.
Eh bien figure-toi qu'on va pas parler beaucoup de bouffe aujourd'hui, un petit peu quand même. Est-ce que tu peux me dire Yves, selon toi, quelle est la plus belle qualité du monde ?
La plus belle qualité du monde, c'est la vie.
Les gens qui aiment la vie ?
Non, la vie en général. La vie, je trouve que elle est trop belle. Elle est trop belle pour ne pas être aimée. Donc, la chance de pouvoir vivre sa vie, c'est assez exceptionnel. Donc, je trouve que c'est la plus belle chose du monde. Il faut bien le dire parce que souvent, on oublie que la vie est belle quand même. Qu'il faut se la rendre belle, certes, mais qu'elle est belle.
Et toi, tu en as toujours eu conscience ?
Oh, j'en ai toujours conscience, non, parce qu'il y a bien des moments donnés, je la trouve dure, je la trouve sale, je la trouve méchante, mais je suis conscient quand même que j'ai une faculté assez incroyable, c'est que j'occulte très facilement tout ce qui est dur, tout ce qui est difficile, les mauvais souvenirs, je les oublie, donc je ne garde que les bons souvenirs, donc c'est pour ça que je dois trouver la vie très très belle à cause de ça.
Ouais, ça c'est une belle qualité.
Ouais, c'est une facilité parce que je sais toujours positiver parce que je pense que voilà dans la vie de quel que soit le personnage, que ce soit la personne, il y a toujours des moments difficiles. C'est pas toujours marrant, surtout quand on prend des engagements, quand on prend des risques, quand on a un peu de fierté, quand on a des convictions, on prend des coups de bâton, on prend des déceptions. Mais bon, ça fait partie de sa vie. Donc il faut savoir avancer quand même. Et je suis pas rancunier, donc j'oublie très facilement. Même j'oublie facilement, normalement, tous ces moments un peu difficiles.
Est-ce que tu peux me dire de quoi tu as peur ?
De quoi j'ai peur ? Oh là là, ça c'est la question terrible. De quoi j'ai peur ? C'est peur. Alors, en ce moment, on va dire, parce que c'est le vieillissement. J'ai peur du vieillissement parce que j'ai peur de ne pas assez, profiter des gens que j'aime. Voilà, c'est-à-dire que j'ai peur, voilà, de quand mon papa et ma maman partent, qu'ils ont tous les deux 88 ans et ils sont ma fondation, ils sont mes racines. Donc, je suis conscient, voilà, que la mort fait partie de la vie et j'ai pas peur de la mort. Mais j'ai peur de ne pas assez en profiter, de ne pas assez profiter de ces moments que je peux partager avec les gens que j'aime.
On manque de temps tout le temps.
On manque de temps tout le temps, oui et non, parce qu'on dit tout ça, parce que voilà, on fait beaucoup de choses, mais aussi j'ai la chance de pouvoir faire plein de choses, de pouvoir vivre plein d'expériences, de rencontrer plein de gens. Alors c'est vrai que je trouve que j'ai pas assez de temps, mais si, comme j'ai dit, il faudrait que je prenne un crayon et un papier, que je marque tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait, mais je me dirais, t'as quand même eu beaucoup de temps puisque t'as fait tout ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est, voilà, on n'est jamais rassasié, on en veut toujours plus du temps. Mais malheureusement, le temps, voilà, on le maîtrise pas. Le temps, il est là et c'est nous qui l'accompagnons.
Qu'est-ce qui t'agace très fort ?
Ce qui m'agace très fort, c'est les gens malhonnêtes et les gens hypocrites. Voilà, ça, c'est une qualité, c'est des défauts, des qualités de certaines personnes et des défauts d'autres qui me rendent un peu dingue, ouais.
Et tu y es confronté ?
Et je suis confronté, oui, je suis confronté, pas je dirais dans mon quotidien, mais c'est assez régulièrement que malheureusement, on rencontre des gens voilà, qui fonctionnent comme ça. Quoi. Et c'est vrai que la déception humaine est pour moi la déception la plus dramatique. Voilà. Je pense que je suis quelqu'un de fidèle et que j'aime profondément les gens. Et bon, moi, c'est vrai que des fois aussi, j'ai mon caractère, donc je dis ce que je pense, ça ne plaît pas à tout le monde, c'est la vie. Mais la déception de tomber sur des gens totalement hypocrites et des gens malhonnêtes, c'est le pire.
C'est marrant que tu parles de fidélité parce que des quelques projets qu'on a eus ensemble, tu es vraiment quelqu'un de très fiable, de très organisé, de très ponctuel. Tu vois, c'est marrant, t'as plein de qualités que dans la restauration, en général, on n'attacherait pas directement au cuisinier. Et toi, quand tu prends un engagement, non seulement tu t'y tiens, non seulement t'es à l'heure, mais en plus, t'es très prévoyant.
Je pense que ça vient. Moi, je trouve ça totalement normal. C'est le respect, quoi.
Oui, si, mais c'est pas si.
Ah non, mais après, bon, chacun fait ce qu'il veut comme il veut, quoi. Moi, je pense que si je prends un engagement, si je dis oui, c'est pas un oui non ou c'est pas un non oui, quoi. C'est un oui. C'est un oui ou c'est un non. Voilà, c'est un non. J'ai une phrase qui est vachement importante pour moi. C'est que, alors c'est sans doute avec le temps aussi que j'arrive à formuler les choses, parce que des fois quand t'es jeune, tu fais des choses et tu formules pas. C'est que je suis toujours parti du principe que je pouvais dire non sans me justifier. Ouais. Voilà. Et quand je dis non, c'est un non. Voilà. C'est tout. Comme quand je dis un oui, c'est un oui. J'ai pas besoin de me justifier pour dire pourquoi je dis oui. Si j'y vais, je y vais, je le fais bien. Et puis je pense aussi que je respecte la personne qui me demande un engagement. Voilà. Parce que moi, quand je prends des engagements pour les autres, voilà, si on me lâche à la dernière minute, eh bien, je trouve pas ça très honnête et je trouve ça même très impoli. Donc j'évite de le faire, même si des fois ça m'est sans doute aussi arrivé, bien malheureusement. Mais je pense que là-dessus, oui, j'essaie de. Quand je m'engage, je suis présent. Je dis pas que je suis bon, mais je suis présent.
Mais ça, c'est clair. Mais apprendre à dire non, c'est une vraie force parce que ça peut prendre toute une vie. C'est quelque chose qui est très difficile pour beaucoup de gens.
Ouais, c'est très difficile. C'est une liberté. C'est une vraie liberté. Je te dis, moi, je le faisais assez facilement et des fois, je le faisais aussi, mais avec un peu de mal-être en moi, parce que je me disais, tu déçois. Et puis non, c'est passé. Maintenant, je suis capable de dire non, et sans me justifier. Mais c'est surtout pas un manque de respect, c'est surtout pas de la désinvolture. C'est simplement parce que je dis non. Et je crois que dans la vie, c'est beaucoup plus difficile de dire non que de dire oui. Alors, je préfère dire non quand c'est profond et que je suis sûr de moi, plutôt que de faire croire des choses alors que je le ferai pas. Mais c'est vrai qu'il y en a certaines, je leur dis, ils comprennent pas. Ils se disent, soit il a la grosse tête, soit il se prend pour qui. Je fais non, j'ai le droit de dire non comme tout le monde.
Bien sûr.
Tout simplement.
Si tu devais te débarrasser d'un trait de caractère, ce serait lequel ?
Un trait... quand je me mets en colère. Quand je me mets en colère. Quand je me mets en colère, je suis sanguin, j'ai été élevé aussi dans un monde d'hommes de conviction et de campagne. Et c'est souvent des gens qui ont la voix assez haute et qui imposent, qui montent le ton très facilement. J'ai joué au rugby, j'ai joué numéro 9, donc j'étais quand même l'aboyeur numéro 1, j'étais capitaine de l'équipe, il fallait secouer tout le monde pour que ça avance. Et des fois je me mettais en colère et ça m'arrive de temps en temps encore de me mettre en colère. Et systématiquement, même si en plus avec... je dirais à 99%, avait raison, mais avec excès. Et cet excès me fait beaucoup plus de mal à moi qu'à la personne qui l'a reçu.
Et tu ne peux pas lutter contre ?
Oui, on lutte toujours, quoi. On lutte toujours, mais on me dit, chasse naturelle et revient en galop. Voilà, ça fait partie de mon caractère, même si j'ai pas mal bossé, je suis allé voir des gens pour m'accompagner là-dessus, j'ai fait beaucoup d'efforts, mais malheureusement, ça arrive encore, voilà, que ce trait de caractère réapparaît malheureusement.
Qu'est-ce qui te fait pleurer ?
L'amour et l'amitié. Ouais. L'amitié bon, au sens large du mot amitié, parce que je suis très très attaché à mes amis. Voilà, j'ai les mêmes amis depuis 52 ans. J'ai des amis d'enfance qu'on s'est connus, on avait 6-7 ans et on est restés plus qu'intimes les uns avec les autres, et on est une bonne dizaine. On se revoit au moins 3-4 fois par an, et malgré qu'on soit partis tous dans des horizons différents. Et j'ai une amitié aussi avec tous mes amis que je rencontrais dans ma vie. Et après, l'amour que j'ai pour ma famille. Voilà. Parce que pour moi, là, je pense que la famille, c'est la chose la plus importante. Voilà. C'est la famille qui ne bouge jamais, c'est la famille qui est capable de supporter la détresse comme l'euphorie. En jugeant très rarement. Et plus je crois qu'on avance dans la vie, ces moments si particuliers de retrouver ses racines, de retrouver les gens qui font ma vie sont très importants. Et ça, c'est sûr que ça peut mettre des larmes aux yeux très 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 facilement.
Est-ce que tu aimes qu'on t'aime ?
Oui, j'aime quand même. Oui, j'aime quand même. On est quand même ce côté, un peu, il y a un ego des fois un peu surdimensionné, voire des fois un peu pas mégalo, mais pas très loin, quoi. C'est ce qui nous est arrivé en tant que cuisinier. C'est vrai que c'est cette reconnaissance sociale que nous avons eue, cette reconnaissance moi que j'ai eue médiatique aussi est très importante. On peut pas dire qu'on aime pas qu'on nous aime, parce que quand on a fait aussi assez simplement un très gros service, qu'on a fait 12 heures dans une cuisine et que quand on monte en salle et qu'on est crevé, fatigué, qu'il y a eu des stress, de la pression, il y a eu tout ce qu'il fallait en cuisine pour faire que la journée avait été lourde à supporter, quand on a ce regard d'amour que les clients peuvent nous transmettre, ce regard avec beaucoup de sincérité, beaucoup de plaisir qui nous donne. Voilà, ça nous donne une puissance et une envie de recommencer le lendemain qui est assez incroyable, quoi. C'est le côté assez paradoxal de ce métier où on donne tout et on est tellement, on reçoit tellement qu'on a encore envie de donner encore plus le lendemain. Donc l'amour que les gens peuvent me transmettre est vachement important. Je pense qu'il y a une génération de cuisiniers, il ne faut pas l'oublier, c'est une génération de cuisiniers de Bernard Loiseau. Je me rappelle de Bernard qui disait que lui ne voulait pas aller en salle. Il voulait pas aller en salle parce qu'il avait un côté peut-être pudique ou il voulait pas être démonstratif en salle. Alors que moi, personnellement, c'est indispensable d'aller voir les gens, de les regarder, de les toucher, de les sentir. C'est quelque chose qui me donne ma force et mon envie de travailler.
Alors, ça me donne envie de faire une parenthèse que tu dis parce que ça me rappelle une discussion qu'on a eue sur justement le fait que les chefs, vous avez reçu beaucoup d'amour d'un coup et beaucoup de médiatisation pour certains et qu'en fait, ça a rendu de vous des gens un peu imperméables à la critique et que toi, justement, t'as toujours aimé la critique, même négative, parce qu'elle t'a fait avancer dans ton métier et tu dis même que t'es là grâce à ça.
Oui, moi je suis pour le débat, de toute façon, je suis pour le débat, je suis pour la discussion. Je pense que c'est justement parce que j'ai pas fait beaucoup d'études, donc je veux m'enrichir des réflexions des autres. Je suis conscient que j'ai un avis très tranché, j'ai des convictions très tranchées, mais je suis conscient aussi que j'ai peut-être pas tout le temps raison. Et je pense que d'écouter une vision différente des choses, une appréciation différente d'une couleur, d'un goût, d'un assaisonnement, c'est important d'analyser tout ça. Et d'essayer de se dire il n'est pas plus bête que toi, je pense qu'il est peut-être même plus instruit, donc s'il a cette vision-là, peut-être que cette vision-là, elle ne te convient pas, mais qu'elle est bonne aussi. Donc c'est essayer peut-être d'arriver à comprendre plus l'autre pour aussi peut-être se construire, parce qu'il y a ça aussi, parce que quand on commence dans ce métier-là, on est quand même des gros bébés, les cuisiniers. Au moins, ma génération, maintenant, je pense que les jeunes qui rentrent en cuisine sont plus âgés qu'on était à l'époque, parce qu'on est rentré à 14 ans, donc on était quand même, on était à peine des adolescents. Donc on s'est construit, je pense que la construction d'un être, c'est justement, c'est aller au contact des autres, d'écouter les autres, de regarder les autres. Là, c'est pas obligatoirement s'identifier bêtement. Là, c'est se nourrir, quoi, se nourrir, s'assaisonner individuellement de la réflexion. Et c'est vrai que l'engagement après que j'ai pu avoir dans mon métier avec... je pense que j'ai aussi eu beaucoup de caractère. 90, quand on crée la bistronomie à plusieurs, il fallait... Même si tout le monde nous dit qu'il ne faut pas le faire, on nous met un peu des barrières, on nous met un peu des bâtons dans les roues, on le fait parce qu'on est suivi par certains journalistes. La jeunesse qui avait un peu le même âge que nous, on s'est disputé avec eux, on s'est engueulé avec eux, on a échangé, on a partagé, on a goûté, on a discuté. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi à se construire les uns avec les autres. Et toujours, comme je dis, quand je dis disputer, batailler, mais c'est dans le bon sens. Il n'y a pas de haine, il n'y a pas de méchanceté. On ne s'est jamais remis en question humainement. On s'est plus remis en question, je dirais, philosophiquement ou par rapport à la vision de certaines choses qu'on avait différentes les unes des autres. Et cette construction, cette construction personnelle que j'ai eue, c'est grâce à tous ces gens-là qui m'ont entouré. C'est grâce à des cuisiniers comme Christian Constant, qui était un gars super ouvert d'esprit. Je vois un gamin comme Jean-François Piège, que j'ai eu comme stagiaire, qui était, quand je dis ça, il avait 17 ans, il était arrivé. Mais c'était avec quelqu'un, on pouvait discuter, toujours discuter, on sentait qu'il avait de la profondeur, qu'il avait de la vision. On bataillait. Sébastien Demorand, bien sûr, qui a été pour moi un des journalistes de ma génération qui m'a le plus apporté intellectuellement parlant, parce qu'il était capable de dire « Yves, c'est bien ce que tu fais, mais je pense que tu aurais pu faire mieux. » Je pense que la construction, elle vient de ça, de ce partage, de la rencontre et surtout d'écouter aussi des gens qui sont des professionnels de leur métier et qui ont une critique, je le redis, qui n'est pas humaine, qui est par rapport à une assiette, par rapport à un assaisonnement et surtout qui après, ils sont capables de nous l'expliquer simplement.
Oui, la difficulté, c'est de ne pas le prendre pour toi, mais pour ton travail.
Oui, la difficulté, c'est de ne pas le prendre là. À un moment donné, il ne faut pas avoir d'égo. Et surtout, pas se sentir, pas croire qu'on est les seuls au monde et qu'on est les plus grands du monde et qu'on est le centre de la Terre. Quoi. Voilà, comme je le dis, sans être péjoratif, c'est qu'on ne fait qu'à manger, on ne sauve pas des vies. Ouais. Moi, j'ai eu un problème de cœur en 2015. Je peux vous assurer que le tout qui m'a opéré sauve 10 vies par jour. Il est sans doute beaucoup plus important dans la société que Candebord qui fait que de la cuisine.
Oui, mais tu fais du bien aux gens et c'est important aussi, surtout en ce moment.
Oui, oui, complètement. Non, non, mais je ne renie pas ça, parce que je pense que c'est
mais
hyper important.
Oui,
c'est hyper important dans la société. Et on se rend compte le malheur, le malheur qu'il y a aujourd'hui, ce mal-être qu'on ressent quand il y a eu les sondages de faits. Et c'est la première chose que tout le monde dit, c'est retrouver le lieu où on pouvait échanger, boire, manger, voilà, partager. Quoi.
Ouais. Ouais, c'est extrêmement
c'est vital.
Important.
Ouais, c'est vital, c'est vital.
Est-ce que tu es romantique?
Oui, je suis très romantique.
C'est ouais, vrai.
Je suis très très romantique.
Ouais.
Non, je suis très romantique. Ouais, je suis très romantique. Alors, il y a pas de cliché, mais oui, je suis très romantique. Je trouve beau. J'adore l'amour. Je suis amoureux permanent. Je suis amoureux de mon épouse, amoureux de mes enfants. Et c'est, je trouve que c'est un romantisme. J'aime le romantisme doux. J'aime le romantisme léger. J'aime que ça me prenne dans mes chairs, que ça me prenne dans mes chairs, que ça me mette beaucoup d'émotions.
Est-ce que tu es religieux?
Alors, je suis catholique. Ouais, j'ai fait toute mon instruction catholique. J'ai été enfant de cœur, jeune témoin de Christ, témoin aîné. Papa a été assez religieux, mais pas trop pratiquant. Moi, j'ai pas mal pratiqué jusqu'à l'âge de 14 ans. Et après, quand j'ai commencé mon métier, donc je n'ai plus pratiqué. Je suis croyant, mais pas pratiquant.
Est-ce que tu peux me raconter ton meilleur échec?
Est-ce que je peux raconter mon meilleur échec? Oui, mon meilleur échec m'a peut-être sauvé, mon meilleur échec. C'est le concours du meilleur ouvrier de France.
Ah bon, je ne savais même pas que tu l'avais passé.
Ouais, je l'ai passé, j'étais en demi-finale et en finale.
Quand?
En 92.
Okay.
Je venais de prendre la régalade, donc j'étais au crayon avec Eric Fachon, et Eric, on s'était inscrits tous les deux avec Eric, donc on avait fait toute la préparation ensemble. Et donc, on passe les demi-finales, ça se passe bien. Et en finale, il y avait, c'était des pommes chatouillardes avec un quasi de veau, je ne me rappelle plus trop. Et du coup, moi, j'ai commencé la régalade. Donc, j'avais plus le temps de préparer tout ça. Donc, j'ai travaillé la régalade. Je travaillais jour et nuit pour lancer la maison. Et c'est Eric qui a fait tout le travail de A à Z. Tout le travail au crayon de A à Z. Et donc, lui, il a passé ça je crois qu'il passait ça le samedi. Moi, je passais le vendredi. Donc le vendredi, il m'a tout amené, tout expliqué exactement comment il fallait faire, parfait. Donc, j'avais plus qu'à reproduire ce qu'Eric avait fait, c'est lui qui avait fait tout le travail. Et le jour du concours, j'arrive au concours, j'ai commencé donc exactement ce qu'il m'avait dit de faire. Et à un moment donné, j'ai voulu changer. Voilà. Je lui ai dit non, je vais le faire différemment. Donc j'ai changé. Et je me rappellerai toujours parce que le vendredi soir, donc je reviens à la régalade. Il y a Eric qui vient, Monsieur Constant qui vient, parce qu'il y avait des moules spécifiques, c'était vraiment très technique. Ils viennent récupérer tout pour le lendemain pour Eric. Et M. Constant, il me dit, alors comment ça s'est passé? Et je lui ai dit, mal. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'as foutu? Et j'explique. Et là, M. Constant, il me dit, mais t'es vraiment têtu. T'es vraiment têtu. Et quelque part, je me dis, heureusement que je ne l'ai pas été. Ouais. Parce que si je l'avais été, comme Eric l'a été, je n'aurais peut-être pas continué de la bistronomie. Je serais peut-être reparti parce qu'il y aurait eu des propositions. Ce qui s'est passé avec Eric Fréchon, quand il a monté la verrière dans le 20e, il a fait un carton comme la régalade. Ça avait été magique dans les années 90. Et du coup, on lui a reproposé le Bristol parce qu'il avait le meilleur rue de France.
Ouais.
Voilà. Et donc, il est reparti dans le système. Voilà. Et je me dis que c'est peut-être le plus bel échec que j'ai pu avoir parce qu'au moins, ça a vraiment coupé complètement mon cordon ombilical avec la haute gastronomie.
Ah bah, si tu avais eu le MOF, il n'y aurait pas eu d'avant-comptoir.
Il n'y aurait pas eu d'avant-comptoir.
J'aurais eu mal à mon apéro.
Ouais, je pense qu'il aurait... Honnêtement, je ne sais pas ce que j'aurais fait parce que j'aurais eu des sollicitations pour les grosses maisons. Et là, une fois de plus, malheureusement, il y aurait eu l'ego du cuisinier qui aurait été flatté. Voilà, cette réussite, entre guillemets, qui est si importante dans notre métier pour le cuisinier de meilleure vie de France. Et peut-être que j'aurais craqué, peut-être que je serais reparti dans le système. Mais là, au moins, je ne pouvais pas y aller.
Ah, c'est clair. Qu'est-ce que tu appelles l'époque chatouillarde?
Chatouillarde, c'était les pommes chatouillardes.
Mais ça, c'est quoi?
C'est ce que je dis chatouillarde, parce qu'au meilleur ouvrier de France, il y avait la pomme chatouillarde. C'était une pomme de terre qu'on tournait en forme de... Allez, pour faire très simple, en forme de queue de cochon.
Ok.
Et après, qu'on faisait comme une pomme soufflée.
Ah.
Ça fait que tu avais comme un gros ressort soufflé. C'est très technique.
D'accord. Alors moi, je croyais que tu avais dit l'époque chatouillarde.
Non, les pommes.
Et que tu voulais dire à l'époque, on se chatouillait sur des trucs compliqués.
Non, les pommes chatouillardes.
Ce qui me faisait rire.
Ouais.
Ok. Est-ce que tu peux me dire quelque chose qu'on ignore de toi? Un petit
quelque
secret.
Quelque chose qu'on ignore de moi. Un petit secret. Oh là là là. Alors là, c'est une colle, ça. Non, j'allais dire que je suis très sportif, mais bon, ça c'est quand même plus ou moins. Ouais, je suis très sportif. J'ai joué au rugby jusqu'à 38 ans, malgré que mon métier, j'ai joué au rugby. J'ai fait 8 marathons.
Ah bon ?
Ouais, j'ai fait 8 marathons. Et je fais encore aujourd'hui pratiquement 10 heures de vélo par semaine.
Ouais. Voilà, génial.
J'ai toujours été très très sportif et le sport m'a toujours... Les rares périodes de ma vie où j'ai pas fait de sport, j'ai eu des problèmes de santé.
Ouais. Ah bah, ouais, pas de secret.
Ouais. Et d'ailleurs, l'infarctus, j'avais fait décrocher depuis 6 mois, 8 mois. J'arrivais pas à faire du sport, j'avais pas la force, pas l'envie. Mm. J'ai eu mon problème de santé. Mm. Le sport a toujours été mon équilibre. Alors, très difficile à faire parce que quand on fait 8 marathons, on allait courir la nuit. Mm. Ouais, on travaillait le jour, bien sûr, et on partait à minuit pour courir pendant 1h30, 2h pour préparer le marathon. Mais c'est vrai que c'était épuisant, mais tellement bien, tellement bon. Moi, ça faisait. Peu de gens le savent peut-être ça.
Mmh. Ah oui, je ne savais pas. Mmh. Tu parlais d'envie. Comment tu nourris ton envie depuis tant d'années ?
Assez simplement. Je crois que je suis très, très curieux. Mmh. Je suis très curieux. Tout ce que je ne sais pas faire, j'essaie de comprendre. Je ne sais pas écrire. Mmh. Alors moi, j'étais un cas parce qu'à l'école, j'avais 2 ans d'avance. J'avais en maths et tout ce qui était... technique, j'étais au-dessus de tout le monde. Mm-hmm. J'avais 19 en maths, je suis rentré en seconde, c'est facile. Et bien en français, j'étais une catastrophe, par exemple. Et je ne sais pas écrire. Je sais pas. Et ça me perturbe de tout temps. Donc j'écris de plus en plus. Donc là, j'ai du temps, donc je me mets à écrire. Je me suis mis à écrire des nouvelles. D'ailleurs, j'ai écrit une nouvelle qui a été éditée sur l'Humanité il y a quelques années.
C'est vrai ? Ouais, ouais. C'est dingue ? Ouais. Et en ce moment, tu écris quoi ?
Alors là, j'écris pour le. Tu as rigolé ? Pour le petit Robert. Le petit Robert m'a demandé d'écrire, de reprendre les expressions françaises qui ont un attrait de la cuisine, comme nourrir les cochons à la confiture, tous ces, mm-hmm. où j'ai la pêche. Mm-hmm. Et donc, je donne ma définition personnelle de toutes ces définitions.
Mais j'adore.
Il y en a 150.
Le petit Robert de Candeux.
Ouais, c'est dans la collection, en plus dans les raies, toi, qui était un génie.
Génial.
Ouais, qui était un génie. Après, le dessin, j'y arrive pas. Parce que l'envie, je garde avec ça. Et puis, j'ai un truc incroyable, c'est la cuisine. J'adore cuisiner.
Oui, parce que t'es l'un des seuls qui, restaurant fermé, continue à cuisiner 2 heures par jour.
Ouais, minimum. Je suis au minimum à 2 heures par jour dans la cuisine. Pour la famille. Mais j'adore cuisiner. Là, je suis venu 3 jours à Paris. Donc, hier soir, avant de partir, j'ai fait une langue de veau pois chiche carotte, que ça prête. J'ai fait un poulet vapeur curry céleri épinard. Persil plat, j'ai fait un potage poireau lentille curry et il manque la quatrième. Ah oui, j'ai fait une rémoulade de céleri avec langue de porc. J'adore cuisiner et je me rends compte que je pense que je suis incapable de passer une journée sans cuisiner. C'est un truc de fou. Ça n'est même pour la famille parce qu'ils se disent mais t'es quand même très souvent en cuisine. Et je pars en vacances. Alors, je vous parlais de mes copains d'enfance. On est une bonne quinzaine. On part en vacances ensemble. Je cuisine pour tout le monde. Et même eux, ils me disent, Yves, laisse tomber, on va se débrouiller. Ils me disent, tu fais ça toute l'année. Je fais, non, je vous promets, j'aime ça, ça me fait plaisir.
Jamais ça t'emmerde.
Jamais. Non, jamais. Jamais.
C'est dingue, faut pas le dire trop fort, ça, parce que tu vas te taper tous les mariages de tout le monde.
Après, je n'aime plus faire de la quantité. Alors, c'est peut-être, tu vois, je vieillis. Hmm. Honnêtement, mon métier, je l'adore, mais je suis en souffrance sur la quantité.
Ouais, je vois.
Je suis vraiment en souffrance sur la quantité. C'est quelque chose qui me pèse maintenant. Mm. J'aime faire pour 10 personnes, 12 personnes. J'adore ça.
Bon,
au-dessus, au-dessus, quand il faut monter. Ouais, mais les services de restaurant, quand on fait 50, 60, 70, toi, je le fais par obligation. Alors, j'aime ça, mais je sais que je me fais souffrance. Tandis qu'à la maison, c'est vraiment mon élément.
Écoute, t'as bien choisi ta voix.
Oui, c'est ce que je dis. Oui, et en plus, je pourrais être écœuré. Non, je n'en suis pas écœuré du tout. Et puis, j'ai la chance d'être en France. Quoi. On a une telle diversité de produits et de saisons. Quoi. Ouais. Et alors là, je me rends compte encore plus des saisons depuis le confinement. Hein, ouais. Parce qu'étant donné que je vais qu'au marché et que j'ai que des paysans, donc c'est vrai que je suis obligé de suivre les saisons. Parce que des fois, quand on est à Paris, quand on prend le téléphone, quand on appelle un fournisseur, on arrive toujours à glisser un produit qui est limite de la saison. Mm. Parce que c'est vrai qu'on peut quand même trouver tout en permanence. Tandis que là, je suis vraiment complètement bloqué sur les saisons. Et je trouve ça génial parce que ça me permet de diversifier ma cuisine, de faire plein d'essais, de m'amuser. Ouais.
Alors, on a dévié sur la cuisine et on ne va pas s'arrêter là. Ça m'amène à ma dernière question. Est-ce que tu peux me raconter avec beaucoup de détails ton gueuleton idéal ?
Alors, avec beaucoup de détails, mon gueuleton idéal. Mon gueuleton idéal. Alors, ça serait déjà... Déjà, il faut penser aux personnes qui feront le gueuleton avec moi. Parce que c'est quand même ça, c'est la base. Alors, je ressusciterai deux personnes.
Ok. Voilà.
Je ressusciterai, vous allez rigoler, Coluche. Voilà. J'ai toujours été fasciné par Coluche. Voilà. Et Daniel Balavoine. Les deux.
Merveilleux.
Voilà, les deux, parce que j'ai lu pas mal de trucs sur eux, et ces deux personnes qui étaient, bon, déjà de réussite professionnelle, mais surtout d'engagement humain et social. Et les deux, j'aurais aimé les rencontrer. J'ai rencontré beaucoup d'autres personnes, mais ces deux-là, j'aurais bien aimé les rencontrer. Je mettrai les deux, et après, je mettrai Thierry Breton, mon acolyte qui est avec moi depuis l'âge de 14 ans. On a pas mal passé de temps ensemble en cuisine, au Ritz, à la Tour d'Argent, au Crillon, au Relais Louis XIII. On a fait quatre maisons ensemble avec Thierry et on est resté intimement liés. Et Thierry, qui est un brut de décoffrage, mais joli gastronome et belle personne.
Ouais.
Et après, je mettrai avec moi, mon papa qui a encore envie. Ça me ferait rigoler de le mélanger à cette sauce-là. Et il va manquer un peu de féminin quand même. J'y mettrai qui ? Anne Gavalda, ça me ferait marrer aussi.
Mm-hmm.
Anne Gavalda et pour terminer, une dernière personne. Bon, je la garde pour la fin. L'invité surprise.
On vous tient au courant, l'invité surprise.
Alors, gueuleton idéal, on va le faire en hiver parce qu'on va le faire à la saison.
Ouais, super. Bon,
je prendrai une brouillade de truffes. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau avec la truffe que l'œuf. Mm. J'en ai encore fait une dimanche là, pour un ami. Une brouillade de truffes, je trouve que c'est un produit d'exception si on respecte bien la cuisson, si on la fait bien. Et ça, je vais le dire pour tous les cuisiniers, les jeunes cuisiniers, parce que les anciens le savent. Un œuf, ça se cuit tout doucement. Faut pas que la chaleur agresse l'œuf. Voilà. Comme quand on fait une omelette, il faut qu'elle reste blanche. Plus on la colore, plus elle est amère. Et si on prend l'œuf entier, on va le mettre entier dans le récipient. L'idéal, c'est le cuire au bain-marie. Mais j'avais pas de bain-marie dimanche, je pouvais pas parce que c'était dans un endroit, c'était un peu du camping. Je l'ai fait sans bain-marie, juste dans une casserole, les œufs entiers, le sel, le poivre, et on les démarre avec une spatule en bois.
Mm-hmm.
Et surtout, on les casse pas. Et on va faire comme on fait pour une crème anglaise, c'est-à-dire le fameux 8. On va vanner tout doucement. Voilà, on prend notre temps. C'est assez long. Là, je l'ai fait la dimanche pour 25 personnes. Il m'a fallu 25 minutes pour la cuire. Et on va la vanner. Voilà. Et j'ai pris 60 œufs. Et vous prenez 250 grammes de beurre avant de commencer. Vous les coupez en petits cubes et vous les mettez au froid, glacés. Et vous cuisez votre brouillade tout doucement. Mais vraiment tout doucement. Il faut que les œufs s'éclatent les uns après les autres, que le blanc garde la consistance, parce que si on bat trop les œufs deviennent liquides, donc il n'y a pas de consistance. Donc les blancs et les jaunes vont arriver à se mélanger, mais vont faire des petites particules. Systématiquement, on va avoir un peu des petits morceaux qui vont se lier les uns aux autres, qui va donner la consistance de la brouillade. Je m'aurais pile dans tous les restaurants modernes de voir les brouillades dans des siphons, de voir des brouillades mixées,
oui,
alors qu'il doit y avoir de la mâche. Voilà. Et quand votre brouillade est pratiquement cuite, la sortir du feu, prendre le beurre glacé et la monter au beurre. Alors, c'était pour 60 œufs, j'ai mis 250 grammes de beurre. Alors, si vous le réduisez à... Je vais pas vous faire la...
Moitié, quoi.
Ouais, il n'y a vraiment pas beaucoup de beurre. Quand je dis 250 grammes de beurre, ça paraît beaucoup, mais c'est pour 60 œufs. Donc, si vous le ramenez à 3 œufs, c'est rien du tout. Et vous l'arrêtez avec ce beurre. C'est parce que le beurre glacé va arrêter la cuisson. Étant donné qu'on va amener un corps glacé dans un corps chaud, obligatoirement, la température va descendre. On va arrêter la cuisson pour garder ce côté baveux. Et après, vous râpez des truffes abondamment dessus. Alors, la petite astuce des truffes, je vais faire crier les cuisiniers, mais j'ai appris ça il y a quelques années, c'est que la truffe pour la brouillade, on la congèle. Le fait de congeler une truffe noire, vous vouliez des détails, hein,
je vous la fais. Ah ben je veux des détails, mais bon, je suis fasciné là.
Le fait de prendre une truffe noire, de la congeler, il y a une enzyme de la truffe qui lâche et ça multiplie par 3 ou 4 l'odorat. L'odorat. Et vous la râpez à la microplane finement.
Voilà.
Étant donné qu'on va la mettre dans la brouillade, on n'a pas besoin de texture. Si vous vouliez faire une salade de truffes, surtout pas la congeler, parce que c'est vrai qu'il y a un côté éponge après. Mais là, étant donné qu'on va la râper, mais sauf le fait de la râper, elle va donner un odorat que vous ne trouverez pas autrement.
Incroyable.
Une fois que vous avez fait ça, vous la servez. Juste un assaisonnement. Surtout pas de beurre, surtout pas de crème.
Okay.
Voilà. Surtout pas de crème, parce que ça va dénaturer. Des fois, on trouve des brouillades qui s'appellent des crèmes d'œufs. Quand on mange un œuf, J'estime qu'on doit sentir l'œuf, le côté suave de l'œuf. Voilà. Donc, cuisson lente, tout doucement, beurre glacé et truffe au congélateur. Du sel, du poivre, et c'est tout. Après, en plat, ben on est dans le gibier. Alors, il y a un gibier qui est assez pas méconnu, parce qu'on en trouve de moins en moins, je trouve, c'est le marcassin. Mmh. Voilà, une bonne daube de marcassin. Ouais, c'est la saison, on est sous la neige.
Ah oui.
Voilà, c'est des plats qui sont réconfortants, c'est des plats assez classiques. Alors, la daube de marcassin, un marcassin coupé en morceaux, bien sûr. Essayez de prendre un maximum de poitrine du marcassin, parce que c'est les parties les plus grasses et les plus charnues qui vont garder du moelleux, parce que la daube, c'est quand même quelque chose qui va être confite. Donc, si c'est pas, la viande n'est pas relativement riche, on peut avoir une viande sèche. L'important pour moi, c'est de la mettre à mariner avec 20% d'échalotes. La viande, 1 kg, 200 g d'échalotes, coupées finement. Pourquoi tant d'échalotes ? Parce que l'échalote va amener un côté rond et sucré, voilà, qui est hyper important. On couvre avec un bon vin, un peu de carottes, un beau bouquet garni, 24 heures de marinade, on égoutte bien, on filtre le vin. Donc on a le marcassin qu'on va faire bien revenir, bien caraméliser, on va mettre toute la garniture dedans. Le vin, on va le mettre dans une casserole, on va le faire brûler. Complètement à part. Vous mettez une casserole, faites attention parce que c'est dangereux. Il faut avoir un couvercle à proximité. Une fois que le vin bout, on l'allume, il va flamber, on va flamber le vin, ça va lui enlever toute son amertume. Et après, on va le mettre sur le marcassin et on va laisser cuire tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Une fois que c'est cuit, alors ça va dépendre de temps de cuisson, il faut au moins 1h15, 1h30, mais ça dépend aussi de la viande, donc il faut piquer assez simplement avec un couteau sans résistance. On va sortir juste les morceaux de viande, que les morceaux de viande. Donc on se retrouve en fin de compte avec le liquide de cuisson et la garniture aromatique. Et ça, on va le mixer par contre. Pourquoi je mixe ? Ça, c'est du Bernard Loiseau. C'est les liaisons sans féculents. C'est les liaisons par le légume. Donc le fait de mixer la quantité importante d'échalotes avec les carottes, ça va donner la consistance à la sauce. Et en fin de compte, on aura une sauce qui sera liée sans avoir mis aucun féculent dedans.
Incroyable.
Et quand on sort, on enlève les féculents, ça c'est le gros, je dirais, changement par rapport à l'avant. Ouais. C'est qu'on est sur des plats qui paraissent au départ soi-disant roboratifs, alors qu'on est là sur des plats, voilà, c'est de la viande, certes du vin, mais lié par une purée de légumes. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus onctueux. Et après, il faut rajouter une garniture avec. Alors moi, j'aime bien mettre des gnocchis. C'est toujours bon. Mais sinon, on peut mettre des petites pommes grenailles. On peut y mettre en ce moment aussi des crônes. On a débuté la saison de la crône. Alors la crône, c'est un petit tubercule qui ressemble un peu à un ver de terre un petit peu, qu'on trouve ici en Île-de-France, au petit village de crône qui a été amené au 18e par les Chinois. C'est les Chinois qui nous ont amenés en France. Et qui est assez original parce que ça fait un petit légume original. Et juste un peu de marron. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Après, en fromage, je vais être très provençal sur le fromage. Il y a un fromage que j'ai découvert depuis que je vais dans le Vaucluse. C'est le Bannon. Voilà. Le Bannon, c'est un fromage de chèvre qui est enveloppé. Dans des feuilles de chêne. Et c'est vrai que c'est un fromage qui est très agréable, qui est très parfumé, qui est toujours très moelleux. Un petit Bannon. Et en dessert, on va rester sur un fruit de saison, on va faire une poire. Voilà, une poire pochée. C'est toujours bon. C'est avec même si on n'a pas de quoi faire de la grande pâtisserie, j'ai envie de vous dire, mais faites des poires pochées avec un sucre vanillé. Achetez un bon sorbet de poire. Achetez une belle meringue chez le boulanger. Et vous mettez ça dans une coupelle. La poire, vous cassez la meringue. Voilà, en miettes dessus et juste une petite quenelle de sorbet poire, ça fait un petit menu sympa. Ça fait assez équilibré, même si c'est un peu riche parce qu'on est avec des œufs, de la protéine animale encore sur le fromage, mais
c'est une torture cette interview. Magnifique.
Et je cherchais qui, l'invité surprise, Florence Artaud.
Oh,
voilà.
La chance.
Voilà, j'ai eu la chance de manger déjà une fois avec elle, c'était une belle gastronome et surtout une peine sans rire qui m'a fait passer un bon moment.
Ouais, t'aimes bien ça.
Ouais.
Écoute, dis-moi quand tu organises ce gueuleton.
Ouais, sans problème, c'est facile.
Merci beaucoup Yves, c'était super. Merci. Et puis à bientôt. Ouais.
J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pourrez tous les retrouver sur Business of Bouffe 2 fois par mois. D'ici là, continuez à bien manger en parlant d'autre chose.